Dans le Vue de Belgique d'aujourd'hui, nous nous focalisons sur la formation du gouvernement bruxellois. C'est pas une mince affaire, une formation complexe qui, pour la première fois dans l'histoire, n'est pas aboutie avant le 21 juillet, jour de fête nationale. Alors, comment fonctionne ce gouvernement bruxellois et quels sont les points d'achoppement, les pierres d'achoppement? Réponse avec Cédric Istas. Il est politologue au CRISP et rédacteur en chef du Courrier hebdomadaire. Il répond aux questions de Blaise van der Linden.
Cédric Istas, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes politologue au CRISP, rédacteur en chef du Courrier hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la formation du gouvernement bruxellois. Un gouvernement bruxellois qui met du temps à se créer. C'est presque historique. J'ai l'impression qu'on n'a jamais vu un gouvernement qui prenait autant de temps à se former du côté de Bruxelles. Alors, est-ce le cas et quels sont les points qui bloquent aujourd'hui?
Alors, tout d'abord, oui, c'est historique. Le gouvernement bruxellois, traditionnellement, est formé assez rapidement après les élections, maximum une cinquantaine de jours. On peut remonter jusqu'en 2004, et on voit que le gouvernement bruxellois a toujours été formé, par exemple, avant la fête nationale du 21 juillet. Généralement, c'est aussi le deuxième gouvernement fédéré, donc c'est-à-dire le deuxième gouvernement régional ou communautaire à être formé. Le premier gouvernement, ce sont les germanophones, c'est la communauté germanophone, où ils sont généralement formés en 2 ou 3 jours, donc on ne va pas les compter, ici en tout cas. Mais voilà, le gouvernement bruxellois, effectivement, a une tradition d'être formé assez rapidement, avant le gouvernement allemand, avant le gouvernement de la communauté française, bien souvent, avant le gouvernement flamand également, et ne parlons pas évidemment du gouvernement fédéral. C'est une situation inédite, effectivement, que ça prenne autant de temps. Ça va bientôt faire 2 mois que les élections ont eu lieu et on ne voit toujours pas de fumée blanche, loin de là. On peut se demander comment c'est la première fois qu'un phénomène pareil se produit, puisque en tant que tel, la formation du gouvernement bruxellois est censée être toujours la plus difficile, puisqu'en fait, vous avez une double formation. À Bruxelles, vous avez les francophones qui négocient de leur côté pour former une majorité. De l'autre côté, les néerlandophones qui négocient pour former leur majorité. Et puis, une fois que les deux groupes linguistiques ont réussi à trouver une majorité chacun dans leur coin, eh bien, tout le monde se rencontre pour discuter alors vraiment de l'accord du gouvernement qui, lui, doit bien être non pas l'addition juste de deux volontés, mais une construction commune. Donc, jusqu'à présent, ce système, bien qu'il paraît plus compliqué, avait permis des processus assez rapides. On voit que cette fois-ci, ça coince. Et ça a même coincé des deux côtés. Alors, prenons donc les choses dans l'ordre. Il y a 2 groupes linguistiques. Le plus important est le groupe linguistique français, donc les francophones. Et ici, très rapidement, au lendemain des élections, les 2 grands vainqueurs sont apparus être le MR et les engagés. Alors, le MR, qui est effectivement devenu le premier parti bruxellois, c'est quand même un résultat également que l'on pourrait qualifier d'historique. Les engagés ne sont que le 4e parti francophone à Bruxelles, mais ils ont réalisé une assez forte progression. Ils sont dépassés par le PS, qui a légèrement diminué, mais qui est apparu quand même comme un perdant, essentiellement en raison des scores enregistrés en Wallonie et au niveau fédéral. Et le 3e parti francophone à Bruxelles, c'est le PTB, mais lui, par défaut, est, en tout cas encore actuellement, exclu des processus de formation gouvernementale. Le MR et les engagés ont dû immédiatement se rendre compte que, contrairement à ce qu'ils espéraient faire et ce qu'ils ont fait, finalement, en Wallonie, en communauté française, ils ne pouvaient pas être suffisants à eux deux pour former un gouvernement majoritaire. En Wallonie, ça marchait, en communauté française, ça marchait, mais en région bruxelloise, il leur aurait fallu avoir au moins 37 sièges sur les 72 sièges francophones que compte le Parlement bruxellois. Pour être majoritaire, ils n'en totalisent que 28. Très rapidement, il est apparu qu'ils avaient besoin d'un partenaire supplémentaire et que ce partenaire devait être le PS. C'est apparu assez rapidement logique, mais voilà, il a fallu le temps que chacun progresse vers cette idée. Bon, pour le MR et les engagés, ce n'était pas évident. Ils avaient d'abord espéré pouvoir mener ce que le président du MR, Georges-Louis Boucher, appelle une stratégie de rupture. Et c'est ce qu'ils essayent de faire actuellement en région wallonne et en communauté française. En région bruxelloise, ils ont dû constater qu'ils n'étaient pas assez forts politiquement pour cela. Il a fallu faire le deuil de ces coalitions miroirs qui auraient permis d'avoir la même chose en Wallonie, en Communauté française et à Bruxelles, voilà. Et puis du point de vue du PS aussi, il a fallu le temps de se décider à monter dans des négociations. Le PS au début a plutôt fait le choix de l'opposition, qui est une solution plus confortable pour lui et qui lui aurait sans doute permis de se recréer une virginité pendant 5 ans afin de se représenter en 2029 devant les électeurs et de pouvoir sans doute augmenter son score. Mais voilà, il a dû constater qu'il était assez indispensable. Il a fini par dire oui au mois d'août. Donc il a fallu du temps quand même. Il faut quand même se rappeler qu'au lendemain des élections, le président du PS, Paul Magnette, dit « le PS choisit l'opposition partout, partout ». Et immédiatement, le président de la fédération PS bruxelloise, Hamet Lawej, est intervenu sur les ondes pour dire oui partout, sauf à Bruxelles. Et puis on sent qu'il a fallu, voilà, une espèce de négociation en interne pour accepter vraiment que ça devienne la ligne du PS. Mais donc voilà, depuis le mois d'août, on se dirige très clairement vers une majorité MR, PS, les engagés, du côté francophone, à Bruxelles. Mais ça n'avance pas beaucoup. D'une part, parce que voilà, il a fallu rétablir une certaine confiance entre les différentes personnes autour de la table, c'était pas gagné d'avance. Il y a des véritables points qui bloquent, en particulier au niveau du budget.
Oui, justement, c'est une question que j'allais vous poser au point de vue fédéral. On a ce dossier fiscal qui bloque majoritairement. Est-ce qu'on a aussi des dossiers qui bloquent au niveau du Parlement bruxellois, au niveau du gouvernement bruxellois?
Oui, entre les partis francophones, on voit bien qu'il y a le MR qui voudrait balayer un peu tout ce qui a été fait durant toutes ces années de ministre-présidence PS. Il faut se rappeler que voilà, la région de Bruxelles-Capitale existe depuis 1989. Elle a toujours eu pour ministre-président un socialiste francophone, à part entre 1999 et 2004. Et donc, le MR voilà, voit Bruxelles comme une entité qui a été essentiellement gouverné par les socialistes, lui-même a été dans l'opposition depuis longtemps, et voilà, il a ici une occasion unique, rare, de prendre la ministre-présidence, ministre-présidence qu'il n'a plus occupé en région bruxelloise depuis 2004. Donc voilà, ça fait 20 ans qu'il attendait d'être de nouveau le premier parti et d'être de nouveau à la tête du gouvernement bruxellois. Et en particulier, il l'a toujours fait savoir, dès avant les élections et encore plus après, il voudrait mener une politique tout à fait, changeante, enfin une politique tout à fait nouvelle du point de vue de la gestion des deniers publics. Donc là, c'est vraiment du point sur la gestion, le budget que manifestement les partis francophones s'échardent. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas facile pour le PS, bon, mais qui a un bilan à défendre, hein, 20 ans à la tête de la région. Et puis, il y a un parti qui a été toujours habitué à être le grand dans les négociateurs, le principal parti qui, là, se retrouve deuxième, un peu en retrait. Voilà, il est dans une position inconfortable à laquelle il n'est pas habitué. Mais donc, oui, il y a véritablement des choses qui échappent entre les négociateurs francophones. On sait que le budget, la fonction publique, etc., sont des éléments cruciaux. Mais d'après les échos que l'on a, il faut bien constater que les négociateurs francophones n'arrivent pas à avancer énormément parce qu'ils sont coincés par l'absence d'interlocuteurs du côté néerlandophone. Alors, on a toujours dit que les francophones négociaient de leur côté, les néerlandophones négociaient de leur, et puis on se mettait autour de la table et puis on voyait ce que ça donnait, et puis on arrangeait un peu les bidons. Voilà, c'était peut-être une façon simplifiée de voir les choses. Et d'autre part, cette fois-ci, on est confronté au fait que on ne sait pas du tout qui on va avoir de l'autre côté de la table, mais on sait qu'il va y avoir des réels problèmes. On pense en particulier à Good Move. Voilà, vous avez d'un côté l'EMR qui a fait campagne en particulier pour l'abolition de Good Move, et de l'autre côté, du côté néerlandophone, le plus probable est que l'on ait Groen, puisqu'on va y venir, c'est le premier parti néerlandophone dans la région capitale, qui lui est par excellence le parti qui a porté, créé, installé, défendu Good Move. Donc voilà, c'est très difficile pour les francophones de commencer à négocier un accord alors qu'ils ne savent pas du tout dans quelle mesure ils risquent d'être remis en cause après du côté néerlandophone. Pour, par exemple, le MR, c'est très différent s'il sait que face à lui, il aura l'OpenVLD et la NVA, deux parties de droite, ou s'il aura plutôt Grun et Voreut, deux parties de gauche. Même chose pour le PS, qui aimerait bien savoir s'il va être le seul parti de gauche. Si Voreut monte du côté néerlandophone, il ne se retrouve pas tout seul, en plus de Grun. Mais voilà, si Voreut n'est pas présent côté néerlandophone, le PS se retrouve seul parti de gauche sur l'ensemble du gouvernement bruxellois. Il doit donc négocier autrement l'accord. Donc voilà, les partis francophones semblent un peu immobilisés par ce problème néerlandophone. Alors venons-en à ce problème.
Justement, le oui. problème néerlandophone, si vous le voulez bien, on l'abordera lors d'un prochain entretien, si
d'accord.
vous voulez bien, parce que nous arrivons à la fin de notre entretien sur Radio Judaïka. Cédric Istas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes politologue au CRISP et rédacteur en chef de Courrier hebdomadaire. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.